Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, on revient sur le conflit israélo-palestinien.
C'est ça, avec des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza, samedi à la frontière avec Israël, pour marquer le premier anniversaire de la marche du retour, cette campagne de manifestation animée par le Hamas pour marquer les 70 ans de la création de l'État d'Israël et l'exode palestinien consécutif, la Nakba. Marche calme, tout le monde l'a remarqué. Pas de bain de sang. Alors le Hamas contrôle l'enclave, contrôle-t-il aussi le mouvement? On en parle avec vous, Laïla Sera, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue, vous êtes chercheuse associée aux séries Sciences Po, auteur du Hamas et le Monde au CNRS 2015. Accalmie et puis même détente, puisqu'Israël a rouvert dimanche ses deux points de passage avec la bande de Gaza. L'État a levé aussi des restrictions de circulation aux navires de pêche gazaouis. Est-ce que c'est pas déjà une petite victoire pour le Hamas?
Disons qu'il y a un cycle de négociations qui s'est ouvert ces derniers mois au Caire entre les différentes factions palestiniennes et Israël pour, de la part de ces factions palestiniennes, obtenir un certain nombre de demandes. Vous avez parlé de l'extension pour les pêcheurs, donc ça a été obtenu. Il y a aussi, parmi les demandes palestiniennes, l'ouverture des points de passage qui séparent la bande de Gaza d'Israël. Donc ces demandes ont été approuvées par les Israéliens, ce qui prouve bien que finalement les Israéliens, ici, en pleine période électorale, cherchent finalement à éviter l'affrontement, puisque l'objectif principal là pour Benjamin Netanyahou, c'est d'être réélu, donc il ne veut absolument pas déclencher une guerre avec la bande de Gaza. Et pour les factions palestiniennes, c'est une micro-victoire, dans la mesure où c'était des demandes déjà qui avaient été formulées dès 2014, qui avaient été d'ailleurs obtenues en 2014 lors de la trêve qui avait mis fin à l'opération Bordure Protectrice, et qui finalement sont obtenues de nouveau. Donc finalement, le Hamas ne fait qu'obtenir ce qu'il avait déjà obtenu en 2014. Donc oui, on peut en ce sens parler d'une micro-victoire.
Et une partie qui était prévue dans les accords d'Oslo, je crois, comme cette extension des zones pour les pêcheurs. Alors quel bilan est-ce que vous feriez de cette marche du retour depuis un an? Des manifestations frontalières avec un coût humain chiffré, là, selon le ministère de la Santé à Gaza, je crois, à 262 tués, dont 35 mineurs d'après l'ONU. C'est quand même très important, ou c'est supportable, disons-le comme ça, pour le Hamas et pour la population?
Non, c'est évidemment, c'est très important. D'ailleurs, le nombre de victimes a fait grossir le mouvement et la mobilisation, puisque d'ailleurs, on peut parler d'un tournant le 14 mai dernier, en 2018. Lorsque les Israéliens avaient donc tué une cinquantaine ou 60 Palestiniens, je crois, ce jour-là, où ils reconnaissaient l'ambassade américaine en Israël, l'a déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Donc je crois que si on veut établir une sorte de bilan provisoire des un an de cette marche, on pourrait tout simplement dire qu'au départ, ce mouvement était spontané. On a parlé de mouvement spontané, certes, il a été spontané. C'est un mouvement qui émane de la société civile, mais qui, dès le départ, était connecté aux politiques. C'est-à-dire que dès le départ, vous aviez le Haut Comité de coordination de la marche du retour qui rassemble l'ensemble des factions politiques palestiniennes de Gaza, qui coordonnait ce mouvement, tout simplement parce que ce mouvement nécessite une coordination, un soutien matériel pour tout simplement déplacer les gens à la frontière, aux différents points de frontière, que ce soit terrestre ou maritime, puisqu'on en parle moins, mais tous les mardis, il y a aussi des rassemblements le long des frontières maritimes. Et que progressivement, je crois que ce qui est assez notable, c'est que dernièrement, on a eu donc l'ouverture de canal de négociation entre les factions palestiniennes et Israël au Caire, et que progressivement, donc, ce mouvement de protestation, qu'on appelle la marche du retour, s'est indexé aux négociations et aux discussions pour parler du Caire. Pour le dire en deux mots, donc, quand ces négociations allaient bon train et que les factions palestiniennes avaient l'impression qu'elles allaient obtenir quelque chose, des concessions de la part d'Israël, et bien le mouvement, la nature de la protestation, disons, évoluait, dans la mesure où vous aviez beaucoup moins de jeunes qui allaient à la frontière lancer des pierres contre l'armée israélienne de l'autre côté de la barrière. Vous aviez une protestation qui prenait plutôt une allure bon enfant, disons, avec des chants, des jeux, et puis donc une tenue assez loin finalement de la frontière terrestre. Alors que dans le cas où les négociations et les pourparlers piétinaient, on va dire, au Caire, et ben la nature de la protestation tout d'un coup évoluait vers quelque chose de... Alors les Israéliens considèrent que ils parlent de violence, les Palestiniens ne parleront jamais de violence dans la mesure où ils ont toujours considéré que cette protestation était pacifique, mais des protestations qui, avec des jeunes qui s'approchaient de la frontière, qui lançaient des ballons incendiaires.
C'est ça, ouais.
Voilà. Donc, je crois que c'est véritablement ça qui compte, en fait. Mmh. C'est la manière dont ce mouvement s'est indexé avec les négociations et les pourparlers du Caire.
Et ballons incendiaires ou cerfs-volants enflammés qui, effectivement, parallèlement aux manifestations, sont peut-être un moyen de pression, quelque chose qui existait déjà il y a quelques années. Ce sont les roquettes qu'on a vu réapparaître avec des tirs le 15 mars, ce qui a occasionné une réponse assez forte de Tsahal sur une centaine de cibles à Gaza. Il y a eu plusieurs hypothèses sur qui pouvait avoir lancé cette roquette, faction dissidente du Hamas ou djihad islamique, donc qui est financée en grande partie par l'Iran. Est-ce qu'on en sait plus déjà sur cette roquette et quelle interprétation vous en faites sur ces roquettes ?
Ces roquettes, tout simplement, il faut les entendre. Enfin, il faut réinscrire ces affrontements violents armés dans un continuum avec justement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les négociations, les pourparlers du Caire et la marche. C'est-à-dire que je crois qu'il faut les voir comme un ultime stade, une étape supplémentaire.
C'est-à-dire se poser en acteur militaire, tout simplement.
Se poser en acteur militaire pour obtenir la même chose que ce qu'on essaye d'obtenir à travers la marche ou les pourparlers, c'est-à-dire la levée ou l'assouplissement du blocus. Donc lorsque vous avez des pourparlers qui piétinent au Caire, lorsque finalement la marche, justement, les acteurs palestiniens ont l'impression que finalement elle n'est plus contraignante pour Israël ou elle n'apparaît plus comme un moyen de pression suffisamment efficace, on a recours à la lutte armée et la violence armée. Donc, en ce sens, ça confirme tout à fait ce que Clausewitz appellerait la continuation de la politique par d'autres moyens.
Donc pour vous, peu de doute que ce soit effectivement le Hamas qui ait lancé cette roquette, même si officiellement il ne le dira jamais. C'est pour ça que je disais faction dissidente. Il y a même eu cette hypothèse de la foudre parce qu'à une époque, je crois en fin 2018, il y a effectivement la foudre qui avait déclenché un tir de roquette.
Alors là, justement, alors on ne parle pas de la foudre, mais on parle justement pour la fameuse roquette qui a touché une colonie au nord de Tel Aviv. Le Hamas a immédiatement fait appel aux Égyptiens pour expliquer aux Israéliens finalement qu'il s'agissait d'une erreur, parce que finalement on était dans une opération de maintenance et la roquette est partie malencontreusement vers Tel Aviv. Donc là encore, on voit bien qu'il s'agit finalement d'une forme de dialogue, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs les Palestiniens qui parlent de dialogue du feu, hiwar en nar, pour dire finalement on est là dans quelque chose, un échange, voilà, on est dans une autre forme d'échange. Donc là, quelque part, le Hamas voulait montrer peut-être justement à sa population et aux autres factions qui faisaient preuve de force en envoyant une roquette vers Tel Aviv, ce qui est inédit depuis 2014, mais il s'est immédiatement excusé auprès des Israéliens en disant finalement il s'agit d'une erreur, c'était une opération de maintenance. Et d'un autre côté, les Israéliens font un peu la même chose puisqu'ils ont, vous le disiez tout à l'heure, bombardé la maison d'Ismaël Haniyeh, bombardé aussi le quartier général de la sécurité du Hamas. Et ils l'ont fait largement apparaître dans les médias comme quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui allait vraiment porter atteinte au Hamas, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de grand-chose, même sur le plan symbolique. Alors on peut parler d'un désastre symbolique pour Haniyeh, mais et encore, ce n'est pas grand-chose. Donc,
ce qui n'a pas empêché Haniyeh d'être présent en manifestation, d'ailleurs, dès le lendemain ou le surlendemain.
Tout à fait. Donc des deux côtés, on voit bien que ces acteurs politiques, finalement, parce qu'ils font face à des difficultés aussi sur leur scène respective intérieure, veulent donner l'impression à leur public d'être dans une surenchère et d'être vraiment dans un rapport de force avec son adversaire, alors qu'il n'en est rien, puisque les deux acteurs, finalement, cherchent l'un comme l'autre à rétablir le calme, obtenir une trêve et faire cesser tous les affrontements.
Et alors, dernière chose, est-ce que le calcul politique du Hamas est le bon, à savoir, sachant qu'il est un peu coincé entre Netanyahou, qui a l'échéance des élections et qui, sans doute, ne peut pas lâcher beaucoup, beaucoup de lest non plus sur Gaza, qui est obligé de prendre une posture très forte, il parle d'une offensive de grande ampleur toujours prête, et puis en même temps la population gazaoui qui a manifesté contre la vie chère, elle-même liée au blocus, entre le 15 et le 17. Est-ce que le Hamas n'est pas pris en tenaille de toute façon ?
Si, bien sûr, vous avez raison, le Hamas est totalement pris en tenaille et vous avez raison de le rappeler, les protestations qu'il y a eu la semaine dernière et qui ont été réprimées par le mouvement. Alors, il ne s'agit pas de quelque chose de complètement inédit. On se souvient en 2017 que les Gazaouis s'étaient déjà mobilisés contre les coupures, les ruptures d'électricité. Là, on est dans une protestation similaire, c'est-à-dire que les Gazaouis reprochent aussi au Hamas de ne pas avoir réussi à obtenir un quelconque assouplissement du blocus jusqu'à présent et le Hamas à chaque fois réprime par la force ses mobilisations. Et à ce titre, on peut aussi rapprocher ces protestations de la marche du retour, puisqu'on voit que certaines factions palestiniennes ont reproché au Hamas cette répression notamment du 14 mars dernier, et pour justement manifester leur mécontentement vis-à-vis du Hamas, ont boycotté les marches du retour. Donc on voit bien aussi comment comment la marche du retour est intimement connectée à la politique intérieure, en tout cas sur la scène nationale gazaoui pour le Hamas.
Bon, bah évidemment, ce sera à suivre. Merci beaucoup en tout cas pour vos explications. Aujourd'hui, Laïla Sera, chercheuse associée aux séries Sciences Po et auteure du Hamas et le Monde aux éditions CNRS en 2015. Merci, bonne journée.